Je veux que les choses soient très claires entre nous. Le quoi qu'il en coûte, nous en sommes déjà sortis. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés au sur-mesure. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin, ceux qui ont perdu de l'argent à cause des réglementations sanitaires. Mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État.
Depuis le début du mois, le fonds de solidarité annoncé au début de la crise dès mars 2020 pour soutenir les entreprises n'existe plus. Le gouvernement a mis en place des dispositifs de substitution avec des mesures plus ciblées par branche ou même entreprise par entreprise. Mais c'est grâce à ce fonds et aux prêts garantis par l'État que la vague de faillite tant redoutée au début de la pandémie n'a pas eu lieu. Au contraire, les 134 tribunaux de commerce de France ont enregistré en 2021 deux fois moins de défaillances d'entreprises qu'en 2019, avant l'épidémie. Mais la fin du « quoi qu'il en coûte », 80 milliards d'aides directes auxquelles il faut ajouter 160 milliards engagés pour les prêts garantis par l'État, risque de changer la donne.
Le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SARL à compter de ce jour. Ça va aller ? Vous voulez qu'on s'arrête ?
Dans les tribunaux de commerce qui décident du sort des entreprises en difficulté, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, les juges attendent cet automne une augmentation sensible du nombre de dossiers. Mais jusqu'ici, ils constatent sans surprise que les entreprises qui ont le plus souffert sont celles dont la survie était déjà aléatoire. La crise sanitaire aurait donc joué un rôle d'accélérateur et dans le même temps, d'autres entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
C'est vrai que j'ai du mal à parler d'être gagnant par rapport au Covid quand on sortit un gagnant, mais disons qu'en tous les cas, le Covid, qui est un événement négatif, n'a pas ralenti notre marché et n'a pas eu un impact si négatif que ça sur notre marché.
Géraldine Allot et Romain Luquins sont à Angers, dans le Maine-et-Loire, où cohabitent ces situations très diverses. Voici leur reportage, quoi qu'il en coûte, et après.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Merci d'attendre l'arrêt complet de nos TGV avant d'ouvrir les portes. Nos TGV sont reçus. Voici en gare d'Angers-Saint-Loup.
Il
n'y
a plus ma valise. Vous étiez pas en haut. Maintenant, je ne l'ai pas monté.
L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte.
Mobilisation générale pour soutenir l'économie menacée par le coronavirus.
Nous prendrons donc en charge les coûts fixes de toutes les entreprises de ces secteurs dès lors qu'elles réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois.
Vigilance accrue aussi pour les indépendants et les micro-entreprises.
Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants.
Je pense aux fleuristes. Je pense aux blanchisseries.
Un fonds de solidarité est créé. Une indemnité forfaitaire d'au moins 1500 euros sera accordée.
Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie
pour les entreprises
sur le plan économique.
Pour éviter des faillites en cascade.
Le fonds de solidarité sera maintenu tant que durera l'état d'urgence sanitaire.
Un fonds de solidarité qui ne prend toutefois pas en compte les loyers et les assurances que toutes ces entreprises doivent payer et qui représentent souvent un poste de dépense important.
Autre coup de pouce, toutes les entreprises pourront obtenir un an de plus pour rembourser leurs prêts garantis par l'État. Un délai sur les dettes contractées auprès des banques est aussi possible pour les entreprises fermées administrativement.
Je souhaiterais faire une liquidation.
Une liquidation judiciaire ?
Oui, parce que j'avais une entreprise sur le lieu d'Angers. Je me suis endettée à cause du Covid.
D'accord.
Je me dis qu'il y avait une solution. Je me rends compte avec vous. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je suis contente de vous voir du coup.
C'est donc ici le tribunal de commerce d'Angers, un bâtiment en béton, tout ce qu'il y a de plus simple, loin de la solennité des palais de justice. Et c'est donc dans ce tribunal que siègent les 28 juges chargés de statuer sur le sort des entreprises en difficulté.
Super. Je donne un dossier. Voilà. Je vous laisse patienter.
D'accord.
Très bien.
Merci.
Bonjour.
Je viens vous voir pour prendre des renseignements pour une liquidation judiciaire suite au Covid. Du coup, je ne sais pas comment faire pour liquider, donc j'aurais souhaité avoir des renseignements.
D'accord, je vais vous donner l'imprimé, là. C'est l'imprimé qu'il faut remplir pour formaliser votre demande de liquidation judiciaire. D'accord. Donc, vous me disiez que vous avez une activité de restauration, de bar.
De bar.
Et donc, là, c'est suite au Covid que vous ne pouvez plus...
J'ai eu des arriérés ne pouvant pas ouvrir. Ouais. Et du coup, je me suis beaucoup endettée. Et là, en fait, il faudrait que je travaille 5 ans pour rembourser mes dettes. Donc, ce n'est pas possible.
Et vous n'avez pas bénéficié des aides de l'État ?
Eh bien, ayant trop d'arriérés avec ma comptable, suite à ça, elle ne m'a pas fait les demandes et moi, je n'étais pas trop informée
donc
de tout ça.
Donc, elle ne vous a pas suivi pour obtenir les... D'accord.
Les aides et puis,
donc là, la comptable ne fera pas le dossier.
Non.
Alors,
je suis coincée, en fait. Je me retrouve coincée à ne pas pouvoir liquider parce que du coup, avec mes arriérés, ma comptable ne veut rien faire.
D'accord. Donc, pas d'aide du tout. Vous n'avez pas eu de PGE, rien du tout. Ok. Donc, ce que vous allez faire, déjà, c'est indiquer toute l'identification de votre société.
D'accord.
Ça, c'est une société ou une personne, vous êtes en nom propre ?
Je suis en nom propre.
Alors, personne physique, donc personne morale, on abandonne. Vous mettez la date de cessation des paiements, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez plus pu payer vos créanciers.
D'accord.
À peu près. Hein. Et puis, bon, vous remplissez. Le chiffre d'affaires, vous ne le connaissez pas ?
Ben non, il n'y a pas eu de bilan de fait, du coup.
À la louche, peut-être ? Vous le savez, à peu près, vous ?
Je sais que l'année avant le Covid, on était à 90 000.
Ouais.
Là, du coup, moi, j'ai fermé, je n'ai jamais réouvert, quoi.
Ouais.
Donc là, ça fait un an d'activité.
Ah, vous n'avez pas rouvert
non,
depuis ?
Ben non, je n'ai pas pu.
D'accord.
J'ai pas pu. Et du coup, après, on m'a saisi l'établissement, étant donné qu'en fait, mon propriétaire me demandait de payer un loyer,
ouais.
Alors qu'en fait, j'étais fermée. Donc
d'accord.
À un moment donné, ça a coincé, quoi.
Bon. Donc écoutez, vous faites au mieux, vous mettez le dernier chiffre que vous avez fait avant la survenue du Covid.
D'accord.
D'accord. Après, bon, vous mettez les actifs. Qu'est-ce que vous avez comme actifs ? Un peu de matériel ?
Ben non, j'ai plus rien.
Vous n'avez plus rien.
Ben
zéro.
Mon propriétaire, il a récupéré, en fait, moi j'avais le fonds de commerce, mais pas les murs.
Ouais.
Du coup, il a tout récupéré, il m'a demandé les clés. Et j'ai dû tout laisser sur place.
Ouais, faudra expliquer ça, voir ça avec le mandataire judiciaire. Et puis là, après votre passif, donc, vous mettez ce que vous devez à la banque, vous le savez à peu près ?
Oui.
Donc, dette fiscale ou sociale, vous en avez ?
Non.
Pas du tout, impôts, URSSAF,
ah bah,
ça ?
Ah bah si. J'ai beaucoup de dettes même.
Mais là... Puis autre dette, c'est les fournisseurs, quoi, tous les fournisseurs.
D'accord.
Voilà, vous faites votre total, vous revenez avec une pièce d'identité, une situation bancaire et puis quelques justificatifs de vos dettes.
D'accord.
Et vous expliquez aussi votre situation liée au Covid,
d'accord,
parce que ça intéresse le tribunal.
D'accord.
D'accord.
Très bien.
Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Claire, vous aviez un bar à Angers. Et vous êtes venue aujourd'hui au tribunal de commerce pour demander une liquidation. Alors, c'est vraiment la toute première étape. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois ?
Les derniers mois ont été très compliqués avec le Covid. Moi, j'avais ouvert une entreprise, ça faisait pas longtemps. Elle avait à peine 2 ans. Donc, c'était vraiment petit budget. Enfin, j'avais pas de finances vraiment... de quoi tenir, en fait, et le Covid m'a complètement plombée. Et là, je ne savais plus quoi faire, donc je suis venue ici pour essayer de trouver une solution.
Votre bar, vous avez pu le rouvrir après les confinements successifs ou pas ?
Non. Pas de terrasse, c'était tout petit. Donc, en fait, il aurait fallu que je mette 5 personnes dans le bar. C'est pas possible. Donc, ça me coûtait plus cher de rester ouvert que d'être complètement fermé.
Donc, depuis mars 2020, vous étiez fermé ?
Oui.
Vous n'avez eu aucune aide, parce qu'il y avait le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité pour les bars et les restaurants, notamment ?
Ben non, parce que ma comptable ne m'a pas suivi. Donc toutes ces démarches-là, je crois qu'elle l'a fait les 2 premiers mois. Et après, ça a été terminé parce que je lui devais des sous. Et puis ben, moi, il fallait que je continue de payer mon loyer alors que j'étais fermée. Donc je me suis endettée. Mon loyer était de 1 057 € tous les mois. Comment voulez-vous donner 1 000 €, sachant que vous n'avez aucune rentrée d'argent ?
Vous étiez exigible au fonds de solidarité
et oui.
Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas pris ?
Parce que je ne savais pas faire les démarches. Moi, ma comptable me faisait tout. J'avais ouvert il y a pas longtemps, tout ce qui était paperasse, c'était pas mon truc. Donc c'est vrai que je la laissais vraiment s'occuper de tout ça. Ben, moi, je savais pas faire, quoi.
Et là, vos dettes, elles s'élèvent à combien?
Oula, je pense que je dois être dans les alentours de 60 000 euros.
Que vous devez?
Oui.
À votre propriétaire?
Oui.
Aux impôts?
Oui.
À qui d'autre?
L'URSSAF, la musique, fournisseur, parce que moi, toute ma cam, je l'ai perdue. Nous, on nous a annoncé le vendredi qu'on fermait le samedi. Moi, mes fûts, je les avais tous percés.
Comment vous vivez, sachant que vous devez 60 000 euros? Comment on vit quand on est entrepreneur et qu'on a ce fardeau-là?
On vit mal. On est stressé.
C'est pas évident. Qu'est-ce qui représente ce bar pour vous?
C'était beaucoup d'investissement. C'était de la joie. Mais après, j'ai pas envie de laisser des dettes à mes enfants. Donc c'est compliqué. C'est toutes mes économies, c'est tout. Et c'était un bébé, en fait. Hein. En plus, c'était récent, donc du coup, j'ai passé beaucoup d'heures. Je me suis beaucoup endettée pour l'avoir. Et j'ai tout perdu rapidement. Donc c'était très compliqué. Et là, en fait, je me disais que fallait que je travaille au moins pendant 5 ans pour rembourser tout ce que je devais, sans me mettre de salaire. Mais quand on a des enfants, qu'on a une famille, une maison, tout ça, on peut pas se permettre. On peut pas.
Comment vous vivez aujourd'hui, Claire ?
J'ai retrouvé un travail, mais sauf que j'ai que des saisies sur salaire, donc en fait je me retrouve à travailler pour rembourser. C'est compliqué.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Je travaille dans une usine. Et en fait, le minimum qu'on peut vous laisser sur votre compte, c'est 500 euros. Donc autant vous dire qu'avec 500 euros, au jour d'aujourd'hui, on fait rien. Et les huissiers saisissent sur le compte sans se poser de questions, hein. Vous recevez un courrier, sauf que le lendemain, vous êtes déjà prélevé, donc vous avez le temps de rien faire. Hein.
Ça n'a pas été facile, j'imagine, de pousser la porte ce matin du tribunal.
Non, et ça faisait un moment que j'aurais dû le faire. Mais en fait, on a peur, je pense, et du coup, on se dit qu'on va trouver une solution, qu'on va y arriver et qu'on va nous aider. Mais en fait, on ne sait même pas vers qui aller, finalement. Donc c'est compliqué.
Vous avez bien votre nom sur la boîte à lettres pour recevoir votre explicabis? Bon, là, de toute façon, je vois que c'est en cours d'attribution. Donc, à mon avis, ça va passer soit ce soir ou demain matin, le numéro. Au besoin, vous me rappelez demain matin, puis je vous l'enverrai par mail, si vous voulez. Ce sera plus simple. Hein ? On fait comme ça ?
On vous retrouve, Dominique Martineau. Vous êtes greffière au tribunal de commerce. Qu'est-ce qui peut arriver dans une situation comme celle-ci pour cette jeune entrepreneuse ? Est-ce que, finalement, ces 60 000 euros de dette, elle devra les rembourser ou pas ?
Pour moi, non, puisqu'elle est en société, l'ouverture de la liquidation se terminera après par une clôture, ce qu'on appelle pour insuffisance d'actifs. Ce qui veut dire que le passif, en fait, elle n'aura pas à le payer. Sauf si elle avait commis des fautes de gestion. Dans ce cas-là, un entrepreneur peut être poursuivi en sanction pour comblement de l'insuffisance d'actifs. Enfin, c'est rare, hein. Ça reste... elle, on voit bien que c'est un dossier qui est conjoncturel pour cette dame. C'est le Covid. Il y a peut-être une déclaration un peu tardive de la déclaration de cessation des paiements, mais c'est pas intentionnel. Voilà. Elle s'est pas enrichie. On voit bien qu'elle est dans une situation pas top, quoi.
La liquidation, pour elle, peut être un nouveau départ.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, déjà, elle va être déchargée psychologiquement, elle va être déchargée totalement de son entreprise. C'est le mandataire liquidateur qui va piloter le dossier. Elle aura plus qu'à, entre guillemets, quand je dis plus qu'à, c'est encore du boulot, hein, mais à lui communiquer tous les renseignements qu'il voudra pour faire le dossier, les actifs, le passif, et puis après, il y aura une clôture qui interviendra d'ici... Alors, soit c'est une liquidation judiciaire simplifiée, c'est 1 an, soit c'est une liquidation judiciaire classique, c'est 2 ans. Et un effacement des dettes derrière.
Vous êtes la première interface pour ces entrepreneurs qui viennent. Comment vous le vivez personnellement ?
Je me souviens que la première fois que j'ai pris un dépôt de bilan, c'était un monsieur qui a pleuré, j'ai pleuré. Donc maintenant j'ai plus de recul avec l'âge. Ça se passe mieux pour moi. Et puis j'essaye de les rassurer, quoi. On essaye de les rassurer au greffe, et puis le tribunal aussi derrière. D'abord je leur montre le nombre de dossiers qu'on a. Ça leur dit qu'ils sont pas tout seuls, quoi, parce qu'ils ont l'impression que voilà, c'est la fin du monde, qu'ils sont minables ou qu'ils ont mal géré. Non, il y a plein de dossiers. C'est pas un drame, quoi. On a le droit à l'erreur.
pour autant, il n'y a pas de vague de fermeture en ce moment.
Non, 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 pas du tout. Alors, est-ce qu'il y en aura une? On ne sait pas. On attend. Tout le monde attend, en fait.
Bonjour, madame. Pas des pots de couche.
Oui, bonjour. Eh bien, bienvenue au tribunal de commerce d'Angers.
Vous êtes voilà. Rémi Douget, le président.
Rémi Douget, le président du tribunal.
Merci voilà. De nous recevoir.
Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir.
On s'installe. Depuis le début de la pandémie, avec tous les confinements successifs, on aurait pu s'attendre à une avalanche de faillites d'entreprises, à une hausse donc, de votre activité au tribunal de commerce. Mais visiblement, ce n'est pas le cas.
Alors, au niveau de, je vais vous donner quelques chiffres, au niveau des ouvertures de procédures collectives globales, tant sauvegarde que redressement judiciaire que liquidation, en 2019, on était à 274, en 2020, 132, et en 2021, 123.
Ce qui veut dire qu'il y a moitié moins de défaillances d'entreprises cette année, en 2021, qu'en 2019.
Exactement, ça fait 55% même de moins. Voilà. Simplement, faut dire aussi, ça concerne des toutes petites entreprises artisanales ou commerçants, etc. Et 40% des entreprises ont moins de 5 salariés.
Pour nos auditeurs, parce qu'on n'est pas tous au fait de ces questions-là, qu'est-ce que c'est qu'une défaillance d'entreprise? Ça peut être une liquidation, donc dans ce cas-là, l'entreprise, elle met la clé sous la porte. Ça peut être un redressement, l'entreprise peut espérer continuer son activité avec un plan d'étalement des dettes. Ou ça peut être une sauvegarde, c'est bien ça? C'est quoi une sauvegarde?
Ça veut dire que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle peut payer ses dettes immédiates, exigées et exigibles. Ça veut dire qu'ils sont à échéance.
Vous venez de nous donner les chiffres, donc défaillance d'entreprise en forte baisse. Comment vous l'expliquez alors qu'on a vécu et on vit encore une pandémie qu'on n'a jusqu'à présent jamais vécue avec des confinements à répétition?
Ben, il est certain que les entreprises ont été largement soutenues par rapport à la crise Covid. Tant les prêts garantis par l'État, que le fonds de solidarité, que les reports de charges, que les exonérations de charges dans certains domaines comme le tourisme, plus le chômage partiel, très important, aide l'entreprise à passer le cap. Ceci dit, il y a quand même des commerces qui souffrent, des secteurs qui souffrent plus les uns que les autres.
Alors lesquels, justement?
Ah ben, je me souviens d'une petite entreprise au tout début de l'épidémie, un petit restaurant qui s'était installé en centre-ville. Alors je m'en souviendrai toute ma vie, une dame qui avait installé un petit restaurant, mais tout simplement, elle pouvait pas avoir de terrasse, elle pouvait pas respecter les distanciations quand on a pu rouvrir, etc. Donc c'était plié, quoi. C'était. Et puis autrement, les secteurs les plus atteints, c'est quand même le commerce. 23%, 23,5%. Les services à la personne, ça comprend aussi les prestataires informatiques, la coiffure, la beauté, tout ça. Ben oui, la beauté, les coiffures. Bon, ben les fermetures, c'est pas évident de refaire une clientèle après. Hein. Même si c'est la personne est située en centre-ville, là on arrive à 23% aussi. Et le bâtiment, tout corps d'État, hein, électricité, serrurerie, peinture, menuiserie, 29% pratiquement.
Bonjour monsieur le juge.
Ça, c'est mieux, ça.
Plus embêtant.
Nous sommes mercredi et c'est le jour de l'audience devant la Chambre du Conseil. C'est vraiment la deuxième étape du parcours des chefs d'entreprise en difficulté. Après s'être présentés au greffe, ils viennent ici, devant le tribunal, soit pour demander le redressement judiciaire de leur société, soit dans le pire des cas, la liquidation.
Bonjour.
Vous êtes le juge Jean Carteau.
C'est cela, oui.
C'est vous qui allez mener cette audience.
Je préside l'audience aujourd'hui, oui.
C'est une audience vraiment solennelle, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise viennent expliquer devant vous le pourquoi de leurs difficultés.
Tout à fait. Donc notre rôle est de, bien entendu, de respecter les règles définies, mais aussi de les mettre à l'aise, puisque c'est quand même très impressionnant quand vous avez un dirigeant qui est dans une situation catastrophique, à la fois professionnelle et souvent familiale, de venir devant des personnes en robe noire expliquer une situation qui est souvent désastreuse. Oui.
Qu'on explique un peu pour nos auditeurs, ici c'est la même configuration qu'un tribunal judiciaire. Vous avez à votre droite le procureur, vous avez les assesseurs à gauche et à droite, vous avez le greffier. C'est vraiment la même configuration.
C'est exactement la même chose.
Bonjour.
Bonjour, maître.
Les 28 juges du tribunal de commerce d'Angers sont tous bénévoles, comme c'est le cas dans tous les tribunaux de commerce de France. Ce sont des commerçants de profession et des chefs d'entreprise, en activité ou à la retraite, et ils sont élus par leur pairs.
Bonjour maître, bonjour monsieur. Nous allons commencer. Alors, pour votre bonne information, nous avons une équipe de France Inter qui est présente aujourd'hui, et nous allons éviter de citer au maximum les noms qui permettent de reconnaître l'entreprise, son dirigeant ou quoi que ce soit. Voilà. Eh bien, nous allons reprendre. Pouvez-vous nous expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles vous demandez la liquidation judiciaire de votre société ?
En fait, du coup, on a ouvert la boutique c'était en février 2020. On a quitté tous les deux notre CDI pour ouvrir une boutique familiale, ensemble. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant ?
Alors avant, moi, je travaillais en grande surface. J'étais responsable adjoint d'un secteur multimédia.
Et moi, j'étais préparatrice de commandes à l'usine.
D'accord.
Ce jeune couple de 32 et 33 ans a ouvert un salon de beauté dans le Maine-et-Loire, un mois seulement avant le premier confinement. Ils sont sur la liste des commerces non essentiels. Ils ferment. Même chose à l'automne 2020 et en avril dernier. Depuis, leur activité a repris, mais pas assez pour payer les factures et les créances. Aujourd'hui, la mort dans l'âme, ils demandent à ce que leur entreprise soit placée en liquidation. Le juge Carteau leur propose un redressement pour leur laisser encore un espoir de continuer.
Continuer à s'occuper de ces personnes-là qui ne pouvaient pas se déplacer. Ou voilà.
Il y a deux types de procédures. Vous avez soit la liquidation judiciaire, donc on liquide la société à compter de ce jour. Deuxième solution, c'est un redressement judiciaire, ce qui veut dire qu'on gèle toutes vos dettes actuelles. Et ça vous permet d'essayer de voir s'il est possible de continuer l'activité, de la redresser et de trouver un moyen de la pérenniser, de la développer. C'est votre choix. Vous êtes les dirigeants, donc c'est votre choix. Que vous ne regrettiez pas plus tard d'avoir jeté l'éponge trop tôt.
Pour ma part, je respecte votre choix. Je demande au tribunal d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.
On y va ? Le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SARL à compter de ce jour, nomme M. Gonnet juge-commissaire. Donc c'est la personne qui va suivre le dossier, c'est un juge, qui va venir faire un état des stocks, de tout ce qui vous reste, et l'évaluer, il sera vendu aux enchères. Ça va aller ? Vous voulez qu'on s'arrête ? Non, mais c'est normal. Hein. C'est juste un accident de parcours. Vous allez vous en relever. Vous avez pris une décision et vous allez voir. Donc, à partir de maintenant, c'est le mandataire qui prend en charge toutes les décisions. Donc, vous n'avez plus à répondre à quelques courriers que ce soit, à quelques sollicitations de fournisseurs, huissiers et autres. C'est le mandataire. D'accord ? Donc, vous êtes déchargé de la société.
Moi, j'ai qu'une envie, c'est de retravailler, d'avoir
d'accord.
un salaire et puis de retrouver une nouvelle page, en fait.
Mmh. D'accord.
On a ouvert la mauvaise année.
Voilà. Mais il ne faut pas le prendre comme une fin en soi. Hein. Vous savez, aux États-Unis, si vous n'avez pas déposé le bilan au moins une fois, les banquiers ne vous prêtent pas d'argent. Ils estiment que vous n'avez pas encore d'expérience.
Moi, je suis très carré.
Mais c'est bien, au contraire. Mais il faut le... Vous savez, on voit des chefs d'entreprise qui le sont beaucoup moins. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée.
Merci, de même.
Vous allez voir maintenant, ça y est, c'est fait.
Amélie et Pierre, on imagine à quel point c'est pas facile pour vous parce que votre entreprise vient d'être liquidée. Vous aviez un salon de beauté près d'Angers que vous aviez ouvert juste avant la pandémie. Et donc, il y a eu des gros soucis forcément de fonctionnement. Comment ça s'est passé, Pierre ?
Ça a été très dur parce que c'était notre première entreprise. On voulait une entreprise familiale. On a ouvert juste un mois avant la Covid. Et ça a été très dur pour nous parce qu'on savait pas trop où aller, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et du coup, on s'est rendu compte que sans aucun salaire à la maison, il nous fallait quelque chose. Donc moi, je suis vite retourné en grande surface faire de la mise en rayon le matin pendant la Covid. Et ça a duré comme ça en fait jusqu'à novembre. J'étais à mi-temps plus après avec la boutique à côté. Depuis avril, je crois que c'était le dernier moment où on a dû vraiment fermer. On se rend compte que financièrement, personnellement et professionnellement, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se dit il faut qu'on tourne la page, il faut qu'on fasse autre chose parce que c'est trop dur, quoi. C'est beaucoup trop dur.
Vous avez ouvert trop récemment pour avoir une clientèle ?
Alors oui, les clientes étaient contents du travail d'Amélie. Ses prestations plaisaient énormément, les produits qu'on avait à la boutique plaisaient énormément aussi. Mais suite au premier bilan qu'on a fait avec notre comptable, quand on a vu le chiffre d'affaires qu'on devait faire pour rattraper cette première année perdue, c'est impossible. Les charges tombent tout le temps, les aides sont pas forcément là, et le chiffre d'affaires pourtant, lui, doit augmenter de je sais pas combien de pourcents. Enfin, c'est plus... Voilà. Au bout d'un moment, on peut pas avoir 10 fois plus de clients d'un coup, du jour au lendemain. Enfin, c'est...
Pour rattraper l'année
Pour rattraper le retard qu'on a eu de l'année 2020. Exactement.
Vous avez eu le prêt garanti par l'État et le Fonds de solidarité ?
Alors, le prêt garanti par l'État, oui, on l'a eu. Et sauf que là, on a commencé à le payer, donc ça fait une charge en fait en plus. Donc au début, oui, on se dit, c'est bien, ça nous fait de l'argent pour pouvoir tenir. Mais derrière, il faut quand même le rembourser. Et le fonds de solidarité, non, parce qu'en fait, on n'avait pas d'historique. Le calcul était basé sur un historique des années d'avant. Et sauf que nous, vu qu'on venait tout juste d'ouvrir, on avait un tout petit chiffre d'affaires du premier mois. Donc du coup, non, on n'a pas eu cette aide-là, quoi.
Comment vous le vivez, cette liquidation ? Vous avez des enfants à élever ? Comment vous le vivez d'un point de vue personnel ?
Personnellement, c'est très dur parce que c'était une boutique familiale. Enfin, c'est un projet où même, pour vous dire, le logo, il avait été dessiné par notre fils. C'est assez dur. C'est assez dur.
Merci,
merci
à vous. Bon courage.
À vous aussi.
Au revoir.
Donc effectivement, c'est très dur pour ce jeune couple. On a vu d'ailleurs Amélie qui était en pleurs et qui ne souhaitait pas nous parler. Donc voilà, première liquidation judiciaire prononcée ce matin à l'audience.
Le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SARL à compter de ce jour. Ça va aller ? Vous voulez qu'on s'arrête ?
Jean Carteau, vous êtes juge ici au tribunal de commerce. C'est vous qui avez mené cette audience, on vient de vous entendre. Et vous êtes également chef d'entreprise dans les télécoms.
Tout à fait.
Après avoir assisté à l'audience, on a vraiment l'impression que le Covid a touché de plein fouet les entreprises récentes ou celles qui venaient d'être rachetées. Il y a vraiment un effet à ce niveau-là.
Oui, parce qu'ils n'ont pas eu le droit aux aides. Ceux qui étaient déjà en activité, étaient organisés, ont pu trouver une solution pour le chômage partiel, pour bénéficier du PGE, etc. PGE, c'est le prêt garanti par l'État, qui leur a été accordé relativement facilement dans les premiers mois. Hein. On était tous en mode panique, je pense. Ce que nous avons vu ce matin, ils ont pris une décision, en âme et conscience. En tout cas, ils ne veulent pas créer de dette, ce sont des gens honnêtes, qui se disent, on a mis de l'argent... On va la perdre, tant pis, mais au moins on va pas mettre d'autres personnes en difficulté. Et on se projette pas, on va retourner vers la sécurité du monde salarié. J'espère qu'un jour ils vont recommencer, c'était une expérience. Et ce qu'il faut qu'on change, c'est le regard de la société vis-à-vis de ces entrepreneurs qui risquent leur argent, leur santé, leur vie familiale pour créer des emplois.
François Mercier, vous êtes administrateur judiciaire. Vous assistez les chefs d'entreprise lors des procédures de redressement. Vous représentez les intérêts de l'entreprise alors que les mandataires représentent les intérêts des créanciers. Vous en voyez beaucoup des chefs d'entreprise qui s'effondrent, comme on l'a vu tout à l'heure à l'audience ?
Ça peut arriver lorsque l'issue est la liquidation judiciaire. Pour le chef d'entreprise, c'est évidemment un monde qui s'effondre. Il s'effondre d'autant plus lorsqu'il y a une personnalisation très forte du chef d'entreprise avec son entreprise. On le retrouve très souvent dans les très petites entreprises, les petites entreprises. Lorsque le dirigeant, ou la dirigeante d'ailleurs, est la fille, fils, petit-fils, petite-fille du fondateur, c'est finalement toute une histoire de famille qui s'arrête. Et c'est un poids très important pour le dirigeant qui est contraint de liquider l'entreprise. Et au-delà même de cet aspect très familial, bien souvent dans les petites entreprises, le chef d'entreprise connaît tous les salariés, voire même parfois leur famille. Et c'est sa responsabilité sociale vis-à-vis de ses salariés qui lui est renvoyée.
Alors justement, il y a quelque temps, le tribunal a mis en place le dispositif APESA pour aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. De quoi s'agit-il et en quoi c'est d'autant plus important en cette période de pandémie ?
L'APESA est une association qui vient en aide aux chefs d'entreprise qui sont en souffrance aiguë, qui ont des idées suicidaires.
Donc l'APESA, ce sont des entretiens téléphoniques et anonymes avec des psychologues.
Oui, absolument. Ce dispositif a une force phénoménale, c'est d'avoir un réseau de sentinelles pour détecter et un réseau de psychologues pour traiter. Et mettre les chefs d'entreprise entre les mains de psychologues qui n'ont strictement rien à voir avec le tribunal de commerce, c'est avoir un regard extérieur, une aide extérieure qui va compléter finalement notre action vis-à-vis du chef d'entreprise.
La dépression, parce que souvent il s'agit de ça, la dépression du chef d'entreprise n'est plus taboue.
Je ne dirais pas qu'elle n'est plus taboue, mais elle l'est de moins en moins. De là à dire que le chef d'entreprise va facilement l'exprimer au sein de son club entreprise, de son club business, de ses amis entrepreneurs, non, je n'irai pas jusque-là. Mais ceci dit, je pense que c'est aussi lié à une évolution de la société. Le chef d'entreprise reconnaît de plus en plus qu'il peut avoir aussi une fragilité psychologique. Et ça, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que, encore une fois, on ne peut pas aider une entreprise, redresser une entreprise, si le chef d'entreprise n'est pas en capacité aussi de le faire. Voilà.
Pouvez-vous nous expliquer la raison notamment de votre demande d'extension de procédure?
Moins traumatisant que la liquidation, le redressement permet un étalement des dettes de l'entreprise. Elle peut alors poursuivre son activité. C'est sous ce régime qu'est placée depuis peu la société de métallurgie du patron que Géraldine Allot a rencontré au tribunal de commerce. Une société qui a déjà plusieurs années d'activité et qui emploie 12 personnes.
Il y a toujours du stress, hein, pour venir au tribunal, puisque les décisions ne sont jamais connues à l'avance, mais serein de ce qui a été décidé pour la poursuite exceptionnelle de la période d'observation.
Donc, c'est-à-dire que vous pouvez continuer votre activité et vous avez une clause de revoyure dans les prochains mois.
Oui, absolument. Donc, de quoi se donner le temps de construire un plan en vue de sortir de cette situation. Nous, on est dans cette situation à cause de la période de 2020 qui nous a beaucoup fragilisés avec des interruptions de chantier, des reports de décisions ou d'affaires donc qui ont dégradé considérablement la trésorerie et c'est la raison principale qui nous a conduit dans cette situation.
Vous avez votre entreprise depuis plusieurs années. Les crises, il y en a eu, notamment celle de 2008. Celle-ci, elle est plus grave que celle qu'il y avait précédemment?
Elle est beaucoup plus importante puisqu'elle a conduit à des pénuries de matières premières et avec une inflation des prix de certaines matières premières considérable. L'acier, il a pris 200%. Et aujourd'hui, certains de nos clients diffèrent leurs décisions d'investissement et donc ils préfèrent attendre qu'on revienne sur des coûts de matières premières moins élevés. Ça fera diminuer la facture et voilà.
Pierre de Remeau, donc je suis juge au tribunal de commerce, président de chambre et je m'occupe de la prévention. Je suis le juge délégué à la prévention auprès des entreprises.
Est-ce que vous pensez que ça va venir à mesure que là les dispositifs sont en train de s'arrêter, les dispositifs d'aide, les prêts, le fonds de solidarité? Est-ce que vous avez peur ou vous anticipez une vague de défaillance d'entreprise?
Je suis à peu près convaincu que oui, on risque d'avoir un nombre de dépôts de bilan. Habituellement, on a par semaine en gros une dizaine de dossiers. Depuis plus de 6 mois, on a 1, 2 ou 3 dossiers. Voilà, donc ce rythme qu'on avait avant, je ne vois pas beaucoup de raisons pour qu'on ne l'ait pas après.
Donc il y aura un effet rattrapage.
Il y aura sûrement un effet rattrapage. Parce que le Covid a laissé des traces, enfin laisse des traces. Il y a des gens, même quand vous avez des aides, même quand vous avez des prêts garantis, même quand vous avez un accompagnement, il y a des gens qui ne vont pas s'en sortir. Parce qu'ils vont avoir perdu pendant 2 ans 80% de leur clientèle et que leur clientèle va avoir, je sais pas, peut-être changer des modes de vie, changer des façons de faire, changer des habitudes et que ça reviendra pas vers chez eux. Alors oui, quand on a ouvert les restaurants, tout le monde a foncé dedans. Il fallait réserver 3 semaines à l'avance pour avoir une table parce qu'on n'avait pas eu pendant 18 mois. Bon, oui. Est-ce que ça va continuer? Je suis pas forcément complètement sûr de ça. Je suis pas complètement sûr de ça. Le Covid aura, d'une certaine manière, produit des transformations, des modes de consommation qui aura une incidence sur la vie économique. Alors, il y en a qui en profiteront, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui n'existaient pas avant et puis qui trouveront des opportunités à travers ça. La vente à domicile, la vente en ligne et tous ces trucs-là, ça a forcément beaucoup augmenté, À l'inverse de ça, on a en même temps aussi des réactions sur des modes de consommation. Parce que ça inquiète aussi, ce qu'on appelle les GAFA, tous ces trucs-là. À la fois, on sait que c'est de pratique. Et à la fois, ça inquiète parce que ça donne l'impression d'avoir des pouvoirs occultes économiques mondiaux qui nous dépassent. Et on n'aime pas bien être dépassé par ces trucs-là. Et donc, il y a en même temps une réaction pour dire « Oui, mais nos patelins, nos villages, nos petites villes, nos villes de province, elles doivent aussi continuer à exister. Et il faut aussi continuer à entretenir l'économie. » Et je pense qu'il y a, dans le même temps, cette opportunité de développement dû au Covid des grands systèmes de distribution, comme il y a en même temps un véritable engouement pour le consommer local. La crise a aussi révélé des choses.
Et ça, c'est l'effet Covid aussi.
Et ça a été, sans doute, amplifié par l'effet Covid.
Interception sur France Inter.
Certaines entreprises, en effet, n'ont pas souffert de la crise. Au contraire, dans le dynamique département du Maine-et-Loire, elles sont assez nombreuses, à l'instar de Vélo Horizon. Géraldine Allot va visiter cette entreprise qui vend des vélos à assistance électrique, une activité dont la croissance a été littéralement dopée par la crise.
Bonjour.
Bien bonjour.
Merci de nous accueillir.
Je vous en prie. Bienvenue en Anjou.
Au milieu des vélos.
Oui, un petit peu. Il y en a.
Donc c'est votre magasin. Il y a des vélos partout. Ils sont tous électriques. Hein.
Oui, en fait, j'ai monté ça en 2008 et on est basé que sur le vélo électrique.
On se met un petit peu au calme pour faire l'interview.
Si vous voulez, je vous en prie.
Avec café ou pas? Pas de refus. Denis Doussin, vous êtes le gérant de Vélo Horizon ici à Angers. Vous avez un autre magasin à Nantes. Vous avez 15 salariés en tout et vous commercialisez des vélos électriques. On a passé ces derniers jours au tribunal de commerce auprès d'entreprises en difficulté et là on vous voit vous et alors c'est tout l'inverse, c'est-à-dire grosse activité, beaucoup de clients. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité, en quoi depuis le Covid elle a augmenté?
Alors, notre activité est déjà sur une pente positive, mais suite à une prise de conscience qu'il existait un autre mode de déplacement après le Covid, tout d'un coup, les gens ils ont pris goût à ce mode de déplacement. Mais là, vraiment, dans le cadre du domicile-travail, on voit un réel engouement et donc on rajeunit notre clientèle de plus en plus.
Qu'est-ce qui a créé cet engouement pour le vélo électrique, selon vous ?
À mon humble avis, cette distanciation qui est nécessaire par rapport au Covid... Le fait de se balader en vélo électrique nous permet d'éviter d'être soit dans le métro l'un à côté de l'autre, soit dans le bus, soit dans le car, soit en covoiturage. Et donc, tant que le Covid est là, on a intérêt à être seul pour justement tous ces gestes barrières à maintenir.
Il y a vraiment une révolution culturelle, on dirait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le vélo électrique, c'était vraiment quelque chose de minoritaire.
Oui, parce que j'ai commencé en 2008, il y avait... une dizaine de mille de vélos électriques de vendus par an. Et donc maintenant, nous sommes rendus à 450 000. Nous avons des progressions de 40% en gros par rapport à l'année précédente. Donc il y a un réel engouement pour ce mode de déplacement. Et en fait, on avait peur du vélo classique. On le laissait souvent accroché dans le garage. Et puis on se dit, tiens, un jour, je vais le sortir. Et une fois qu'on a goûté au vélo électrique, on n'arrive pas en sueur au travail. On voit une côte, ça nous fait plus peur. Et donc on démocratise en fait ce mode de déplacement.
Qu'est-ce que ça a changé, vous, en tant que chef d'entreprise par rapport à quand vous avez commencé en 2008?
Alors quand j'ai commencé, on avait deux modèles, un vert et un gris, un vélo qui faisait 36 kilos. Donc maintenant, on se retrouve avec 800 modèles différents. Maintenant, on a du vélo de course, du triporteur, du biporteur, du vélo enfant électrique, du vélo de course électrique. Tous les segments de vélos sont électrifiés.
Selon vous, il y a des gagnants et des perdants de cette crise ou vous ne voyez pas les choses de cette façon?
Si vous parlez du côté pécunier, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Après, dans 3 ans, on vivra, enfin j'espère en tout cas, avec un modèle économique un petit peu modifié, mais on vivra tous ensemble encore.
Enfin, certains resteront quand même sur le carreau.
J'espère qu'il y en aura le moins possible.
On est toujours à 2840. Vous l'avez qu'avec ce moteur-là sur le...
Le Katmandou, il est en CX.
Bon, bah écoutez, j'essaie.
Ouais. Hop, donc là, vous avez plus et moins. Éco, tour, sport et turbo.
Ok. A tout de suite.
A tout de suite.
rien à voir. C'est plus du vélo là. C'est plus du vélo, c'est de la mobylette en fait.
Là, c'est un gros moteur. Hein. C'est autre chose là.
Je ne vous ai pas demandé sur les premiers au niveau des freins, c'était
c'est du disque hydraulique.
Donc c'est pareil.
Ouais, là on est sur le même freinage.
Parce que moi, mon objectif, c'est mes 4 km pour aller au travail et d'arriver sans être en sueur. Enfin, prendre la voiture pour 4 km matin et 4 km le soir. Et
puis, ouais, c'est sûr.
Monsieur, vous cherchez donc un vélo électrique ?
Oui, parce que comme je disais, d'arriver au travail en sueur, c'est pas très agréable ni pratique. Mais voilà, et puis on a l'impression que on va être un peu plus écologique. Pour la santé aussi.
Vous êtes loin d'être le seul, hein ? C'est en plein boom.
Oui, oui, d'ailleurs dans les magasins, c'est plutôt difficile de trouver des vélos en vente, tout à fait. Allez, je vais faire un petit tour.
Nous quittons la PME Vélo Horizon pour aller visiter un grand groupe, le géant français de l'informatique, Atos. Sur son site d'Angers, 250 salariés assemblent des serveurs informatiques et des supercalculateurs, ces gros ordinateurs utilisés dans les prévisions météo et la recherche médicale, entre autres. Malgré le Covid, ou plutôt grâce à lui, le chiffre d'affaires de la division Big Data et Sécurité d'Atos a augmenté de 15% en 2020. Atos veut d'ailleurs doubler la taille de son usine à Angers.
Alors, vous avez besoin de quoi ?
Vos pièces d'identité, oui, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur.
Bienvenue chez Atos à Angers. Je suis ravi de vous accueillir, bien évidemment.
Vous êtes le directeur et vous vous appelez Vincent Saracani.
Absolument.
On va vous suivre.
On va commencer peut-être par une petite visite de nos ateliers de production. Donc ici, vous avez la partie fabrication des supercalculateurs. Vous les voyez, ce sont des racks de calcul. Hein, des machines qui font plusieurs millions de milliards d'opérations par seconde. Un rack comme ça, c'est les muscles d'un supercalculateur. C'est ce qui va vraiment être capable de lui donner de la puissance et lui donner la capacité à calculer beaucoup de choses simultanément.
Donc ça, c'est l'un de vos supercalculateurs. Ça sert à quoi ?
Alors ça sert à quoi ? Ça sert à plein de choses. Actuellement, on est en train de se préparer, c'est ce que vous allez voir, pour un prochain très gros supercalculateur qui fera 140 racks de calcul comme ça, qui est pour Cineca. Cineca, c'est un regroupement de 70 universités italiennes. C'est le plus gros regroupement d'universités italiennes. Et donc, qui ont créé un campus pour avoir de la puissance de calcul à mettre à disposition de leur centre de recherche. Aussi bien dans le domaine du médical, du pharmaceutique, de la recherche autour de la météo aussi. Il y a vraiment tout type de recherche que l'on peut réaliser sur nos types de calculateurs. Ces supercalculateurs, il n'y en a jamais deux qui soient identiques parce qu'ils doivent avant tout répondre à la façon dont les clients vont l'utiliser.
Et ils servent à des usages très divers. Ça peut être la recherche, ça peut être le médical, ça peut être tester la résistance de matériaux, ça peut être dans la recherche militaire.
L'aérodynamisme, ça peut être la recherche militaire, absolument. Ou la recherche de la protection civile aussi, prévoir les mouvements de foule, prévoir ce genre de choses. Pour simuler. En fait, tout ce qui va coûter très cher à simuler dans la vraie vie. Ouais. Et puis aussi, encore une fois, c'est le cas pour la recherche sur les médicaments ou sur les vaccins. Pour faire des médicaments, ça coûte excessivement cher. Si grâce à un supercalculateur, on a déjà réussi à réduire le domaine des possibles, parce qu'on a réussi à trouver qu'il y a tout un tas de pistes qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas valables, alors on réduit grandement les coûts. Ensuite, quand on doit vraiment passer à l'expérimentation physique.
Le cerveau humain ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans ces machines.
C'est difficile d'appréhender 250 millions de milliards d'opérations par seconde. Il y a quelques années encore, on expliquait que si tous les habitants de la planète prenaient leur calculatrice et faisaient un calcul en même temps, ils feraient à peu près la puissance d'un des ordinateurs qu'on a. Maintenant, on a largement dépassé ça et on continue à le dépasser.
On est toujours avec vous, Vincent Saracani, vous êtes le directeur de l'usine Atos d'Angers. On vient de visiter le site de production de supercalculateurs. Vous faites aussi du big data, donc de l'analyse de données et du stockage de données, de la cybersécurité. Finalement, vous, votre activité, elle fait partie des activités qui sortent gagnantes du Covid.
C'est vrai que j'ai du mal à parler d'être gagnant par rapport au Covid quand on sortirait gagnant. Mais disons qu'en tous les cas, le Covid, qui est un événement négatif, n'a pas ralenti notre marché et n'a pas eu un impact si négatif que ça sur notre marché. Par rapport au Covid, on se rend compte que la recherche, c'est fondamental. et que pour faire de la recherche, il faut des instruments, le big data, l'intelligence artificielle et les puissances de calcul apportées par les supercalculateurs. Ce sont les outils au quotidien de l'ensemble des chercheurs du monde entier. Et il faut rajouter à ça la cybersécurité, parce qu'il faut bien être quand même capable de protéger ces environnements qui sont très ouverts, car très connectés. Bien, vous tombez sur les credos sur lesquels nous sommes, et donc qui sont forcément porteurs. D'ailleurs, on a pu voir que certains de nos supercalculateurs étaient utilisés dans la recherche sur le vaccin. Mais comme d'autres, hein, je tire pas la couverture, c'est juste pour vous dire que ça fait partie des arsenals qui a été mis à disposition pour contrer ce fléau.
Vous voulez doubler la capacité de votre usine ici, de supercalculateurs, ça veut vraiment dire que vous êtes confiant en l'avenir.
Oui, je suis confiant. Ouais, je suis confiant. On a beaucoup embauché aussi, 45 embauches en 2020, une quinzaine d'alternants. Puis en 2021, on continue. On a embauché depuis le début de l'année 13 personnes. Enfin voilà, donc on a un programme ambitieux, oui. Je pense que oui, il y a des secteurs qui ont été touchés beaucoup plus fortement que d'autres et que j'ai la chance de faire partie d'un secteur qui a été beaucoup moins touché que d'autres, absolument clair. Mais je ne sous-estime pas la capacité des autres de se relever aussi.
Quoi qu'il en coûte, et après, c'était un reportage de Géraldine Allot avec une prise de son de Romain Lukens. Reportage disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Jean-Benoît Tétu.